Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique pour le 9e dimanche. Il arrive qu'un jour le sabbat, Jésus passe à travers les terres semées de blé. Ses disciples commencent à faire route en cueillant les épis. Les pharisiens lui disent
« Vois, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis le sabbat ?»
Il leur dit
« N'avez-vous jamais lu ce que fit David quand il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses compagnons ? Comment il entra dans la maison de Dieu au temps du grand prêtre Abiathar et qu'il mangea les pains de l'offrande, ce qu'il n'est pas permis de manger sauf pour les prêtres, et qu'il donna aussi à ceux qui étaient avec lui.
Il leur dit,
« Le sabbat est pour l'être humain, et non l'être humain pour le sabbat. Ainsi, le Fils de l'homme est aussi Seigneur du sabbat. »
Il entre de nouveau dans la synagogue. Il y a là quelqu'un dont la main est desséchée. Il l'y pie pour voir s'il va guérir le jour du sabbat, afin de l'accuser. Il dit à l'homme qui a la main desséchée,
« Lève-toi, au milieu !»
Et il leur dit,
« Le sabbat est-il permis de bien faire ou de mal faire, de sauver une vie ou de tuer ?»
Ceux-ci se taisent. Promenant un regard de colère à la ronde, affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme,
« Étends la main !»
Il l'étend et sa main est rétablie. Aussitôt, les pharisiens tiennent délibération avec les Hérodiens contre lui afin de le perdre.
Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Eh bien, voici deux épisodes qui se déroulent un jour de sabbat. Et Jésus semble s'acharner à rompre le repos de ce jour sacré. Pourquoi?
Eh bien, pour comprendre le geste de Jésus, il nous faudra sans doute nous replonger dans ce qu'était le sabbat à son époque. Mais regardons où se trouve notre texte. Le récit évangélique, selon Marc, débute directement avec le baptême de Jésus. Il n'y a pas en marque de prologue qui raconte la naissance de Jésus comme il y en a dans les récits de Luc et de Matthieu. L'épisode du désert et des tentations y est aussi très bref. Enfin, le chapitre 1er raconte l'appel de 4 disciples et les débuts de la mission. Et Marc raconte cette mission en une journée type où enseignement et guérison suscitent l'enthousiasme des foules. La renommée d'ailleurs de Jésus est telle qu'il ne peut plus entrer dans les villes sans se faire reconnaître, nous dit l'Évangile. Aussi doit-il se retirer dans des endroits déserts, mais malgré tout, on vient à lui de partout. Avec le chapitre 2, eh bien, nous assistons à toute une série de controverses entre d'une part Jésus et d'autre part les scribes et les pharisiens. L'attitude et l'enseignement de Jésus commencent à rencontrer une forte opposition de la part des spécialistes de la Torah, de la règle de vie donnée par Dieu. Les pharisiens, qui sont un groupe religieux très pieux et aussi très rigide sur l'observance des préceptes de la Torah, vont s'opposer à Jésus. Et les critiques qu'ils lui adressent concernent d'abord son attitude face aux pécheurs. Jésus mange avec eux et il a même choisi parmi les pécheurs, un de ses disciples, un de ceux qui l'accompagnent, Lévi, qu'on appelle aussi Matthieu. Or, on sait l'importance sacrée du repas chez les Juifs. Manger avec quelqu'un, c'est vraiment devenir son compagnon, celui dont on partage le pain, son ami. Et comme dit le proverbe, eh bien, qui s'assemble se ressemble. Alors, si Jésus mange avec des pécheurs, c'est comme s'il approuvait leur conduite. En tout cas, il prend part à leur impureté, et cela normalement le rend lui-même impur, c'est-à-dire éloigné de Dieu. Jésus est aussi contesté sur sa façon de voir le jeûne. Le jeûne était vécu comme le moyen d'attirer l'indulgence de Dieu sur le pécheur. Or, plutôt qu'aux blâmes et aux privations qu'on s'inflige pour se purifier devant Dieu, Jésus, lui, donne priorité au pardon et à la fête qui accompagne ce pardon. Pour lui, le péché ne peut être effacé par les seules mortifications du jeûne. Ce qui guérit le cœur pécheur, c'est son ouverture à l'amour de Dieu. Et c'est en faisant l'expérience de l'amour de Dieu qu'on trouve la vraie conscience de ce qu'est le péché. Ce qui fait qu'une action, une pensée est un péché, ce n'est pas d'abord parce que c'est une infraction à une règle de vie donnée par Dieu, mais parce que ce geste ou cette pensée détériore notre capacité d'aimer. Si l'amour donné au pécheur ouvre de nouveau son cœur à l'amour, eh bien, cela conduit à la joie de Dieu et celle du pécheur pardonné, comme nous le dit le récit de Luc.
C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir.
Et les autres controverses qui vont suivre, eh bien, elles vont tourner autour du sabbat parce que, notamment, Jésus va y opérer des guérisons.
Un jour de sabbat, Jésus passe à travers les terres semées de blé. Ses disciples commencent à faire route en cueillant les épis.
Cet épisode est raconté par les trois récits évangéliques de Matthieu, Marc et Luc. Matthieu nous donne la raison du geste des disciples. Ils ont faim. Mais on peut se poser la question, où se trouve le méfait des disciples? Est-ce parce qu'ils ont cueilli des épis dans un champ, et un champ qui ne leur appartient pas? Ou bien est-ce parce qu'ils ont fait un geste de travail qui était interdit le jour du sabbat? Le livre du Deutéronome donnait une permission pour cueillir les épis.
Si tu passes dans la vigne de ton prochain, tu pourras manger du raisin à ton gré jusqu'à satiété. Mais tu n'en mettras pas dans ton panier. Si tu traverses les moissons de ton prochain, tu pourras arracher des épis avec la main, mais tu ne porteras pas la faucille sur la moisson de ton prochain.
Autrement dit, on était autorisé à se nourrir des produits de la terre en cas de faim, mais on ne pouvait pas en faire des réserves. Peut-être que d'ailleurs cette tolérance n'était plus admise du temps de Jésus. En effet, souvent le commentaire oral des rabbis pouvait être plus strict que les règles écrites. Mais est-ce vraiment là que se trouve le problème soulevé par les pharisiens? Eh bien, deux éléments colorent la réponse de Jésus. D'abord, le fait effectivement que ce soit le sabbat, et puis l'appel qu'il fait à un geste posé par le roi David.
Qu'est-ce que le sabbat et quelle est son importance dans la vie juive?
Eh bien, on trouve une description de ce jour sacré dans le livre du Deutéronome au chapitre 5.
Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme te l'a commandé le Seigneur ton Dieu. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ainsi, comme toi-même, ton serviteur et ta servante pourront se reposer. Tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a commandé de garder le jour du sabbat.
Mais il y a beaucoup de choses dans ce texte. D'abord, ce septième jour de la semaine, le sabbat, qui est notre samedi, doit être un jour consacré à Dieu. Ce jour-là, tout Israélite doit s'abstenir de travailler. Alors pourquoi? Mais la première raison est qu'il faut consacrer une journée sur sept au repos. On ne sait pas d'ailleurs très bien d'où vient le mot « sabbat ». Il peut provenir du verbe hébreu « shabbat » qui signifie « s'arrêter » ou bien au contraire du mot « shabbat » qui signifie « septième ». La semaine était en effet de sept jours et cela venait des quatre phases de la lune. D'ailleurs, le même mot hébreu « yaréa » signifie « lune » et « mois », le « mois ». Le Nisan était le premier mois de l'année juive parce qu'il commençait par la nouvelle lune qui suivait l'équinoxe de printemps. Le Code de l'Alliance, d'autre part, souligne le côté humanitaire du repos du sabbat.
Pendant 6 jours, tu feras tes travaux, et le 7e jour, tu chômeras, afin que se repose ton bœuf et ton âne, et que reprenne souffle le fils de ta servante ainsi que l'étranger.
Ce repos est donc une sorte de libération de la servitude du travail. Et ajoutons, on l'a entendu tout à l'heure, que le Deutéronome faisait aussi référence aux travaux forcés en Égypte. Donc le repos du 7e jour devra être vécu comme un mémorial, un souvenir de la libération que Dieu a donnée à son peuple lorsqu'il l'a fait sortir d'Égypte. La seconde raison fait référence à l'imitation de Dieu. Dans le récit de la création, Dieu en effet se repose le 7e jour. C'est ainsi que le livre de l'Exode va présenter le sabbat.
Vous garderez bien mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous pour vos générations, afin qu'on sache que je suis le Seigneur, celui qui vous sanctifie. Vous garderez le sabbat, car il est saint pour vous. Pendant 6 jours, on fera l'ouvrage à faire, mais le 7e jour sera jour de repos complet, consacré au Seigneur. Entre moi et les Israélites, c'est un signe à perpétuité. Car en 6 jours, le Seigneur a fait les cieux et la terre, mais le 7e jour, il a chômé et repris haleine.
Mais malheureusement, cette règle de libération qu'était le sabbat va devenir au cours des siècles un véritable carcan. Les textes rabbiniques vont préconiser une observance extrêmement sévère de ce précepte. Le sabbat devait être un jour délicieux, comme le rapporte le livre d'Isaïe. Et si tu t'abstiens de violer le sabbat, de vaquer à tes affaires en mon jour saint, si tu appelles le sabbat délice et vénérable le jour saint du Seigneur, si tu l'honores en t'abstenant de voyager, de traiter tes affaires et de tenir des préalables, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Mais malheureusement, au lieu d'être délice, le sabbat va devenir parfois un fardeau intolérable. Certains rabbis interdisaient l'usage du mariage le jour du sabbat, et d'autres, comme les Esséniens, défendaient même d'aller à la selle. Plus tard, on comptera 39 activités interdites en ce jour. Préparer la nourriture, allumer du feu, ramasser du bois, pratiquer la cueillette, aider un animal ou un être humain qui est en danger, marcher plus de 1250 mètres, et même défaire un nœud ou tracer plus d'une lettre de l'alphabet.
La réponse de Jésus.
Oui, Jésus, dans sa réponse, fait appel à un texte du premier livre de Samuel qui met en scène le roi David. Alors, écoutons ce texte qui est au chapitre 21.
David arriva à Nob chez le prêtre Ahimélec. Celui-ci lui demanda, « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au prêtre Ahimélec, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit, « Que personne ne sache la mission dont je te charge et l'ordre que je te donne. Quant à mes hommes, je leur ai donné rendez-vous à un tel endroit. Maintenant, si tu as sous la main 5 pains, donne-les-moi ou ce qui se trouvera. » Le prêtre répondit, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, il n'y a que du pain consacré. » Alors le prêtre lui donna ce qui avait été consacré, car il n'y avait pas d'autre pain que le pain d'oblation. Celui qu'on retire de devant le Seigneur pour le remplacer par du pain chaud.
On se trouve donc probablement dans ce texte un jour de sabbat, puisque c'était effectivement le jour où l'on remplaçait les pains d'offrande, selon ce que disait le livre du Lévitique.
C'est chaque jour de sabbat qu'en permanence on disposera les pains devant le Seigneur. Ils appartiendront à Aaron et ses fils, qui les mangeront à un lieu sacré, car c'est pour lui une part très sainte des mets du Seigneur.
Ces pains devaient être consommés seulement par les prêtres, mais David et ses compagnons vont en disposer, puisqu'ils n'ont pas d'autres pains et qu'ils ont faim. Même s'il a lieu un jour de sabbat, le geste de David de manger les pains sacrés semble donc justifié par le seul fait que lui et ses compagnons ont faim, et Jésus semble en déduire que ses disciples peuvent cueillir des épis, le sabbat, parce que eux aussi ont faim. Jésus d'ailleurs conclut sa référence en David en disant que le sabbat est au service de l'être humain et non pas l'inverse. Il ne faut donc pas réduire le précepte du sabbat à un permis défendu qui est arbitraire. Le sabbat doit aider l'être humain à devenir libre. Le sabbat n'est pas un but en soi et il ne doit surtout pas asservir l'être humain. Le sabbat est au service de la liberté. Plus tard, vers l'an 180, le rabbi Siméon ben Menaïa dira « À vous, le sabbat est livré et vous n'êtes pas livré au sabbat. » Dans le récit de Matthieu, récit parallèle à celui que nous étudions, Jésus fera une autre comparaison avec les prêtres du temple.
« N'avez-vous pas lu dans la Torah que le sabbat, les prêtres dans le temple, violent le sabbat sans être en faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. »
Alors, qu'est-ce qui est plus grand que le temple ? Eh bien, c'est Jésus lui-même qui se présente comme le Fils de l'homme, cet être qui reçoit de Dieu l'autorité sur le peuple où Dieu règne. En lui, le Fils de l'homme, l'être humain par excellence, il y a la présence du Dieu vivant. Mais cela vaut aussi pour tout être humain qui est membre du peuple de Dieu. Le livre de l'Exode parle en effet de tout le peuple de Dieu, comme un peuple qui est un peuple de prêtres, un peuple sacerdotal.
« Toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. »
Chaque être humain de ce royaume de Dieu est donc d'égale dignité, et il peut donc manger les mets sacrés qui sont réservés aux prêtres. D'autre part, une tradition juive voulait que le Messie qui allait venir, changerait la Torah. Alors en se disant maître du sabbat, Jésus veut peut-être se présenter comme le Messie, c'est-à-dire comme le nouveau David qui a été le plus grand des rois consacrés, des rois Messie. Enfin, Jésus va peut-être lier le sabbat à l'amour du prochain. Dans le passage parallèle de Matthieu encore, Jésus va dire
« Et si vous aviez compris ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux et non les offrandes », vous n'auriez pas condamné des gens qui sont sans faute. »
Jésus appuie son argumentation sur cette phrase du prophète Osée « C'est la miséricorde que je veux et non les offrandes » qui rappelle qu'on ne peut honorer Dieu si on n'honore pas le prochain. Certains rabbis étaient sans doute d'accord avec cette vision de Jésus. En effet, subordonner l'amour de Dieu au règlement, cela témoigne non pas d'un respect de Dieu, mais d'un mépris inconscient du Père, de ce Père qui aime l'être humain et qui veut son bonheur. Si la grande majorité des pharisiens et des scribes vont s'opposer à Jésus dans sa façon de voir le sabbat, c'est sans doute parce qu'ils pensent que cet homme qui a une grande influence pourra entraîner les foules à désobéir à la Torah sans raison valable. Or, j'allais dire, nous trouvons une réponse de Jésus à cela dans un texte parallèle, le texte de Luc, où il y a un verset qui répond à cette objection des scribes.
Voyant quelqu'un travailler le jour du sabbat, Jésus lui dit « Homme, si tu sais ce que tu fais, tu es heureux. Mais si tu ne le sais pas, malheureux es-tu, toi qui transgresses la Torah. »
Oui, Jésus fait appel à la responsabilité de chacun, en faisant confiance à ce qu'il est profondément, en faisant confiance au meilleur de lui-même. Et c'est cette attitude de confiance qui peut vraiment faire grandir chacun et le faire devenir un fils et une fille de Dieu.
Il entre de nouveau dans la synagogue. Il y a là quelqu'un dont la main est desséchée. Il l'épie pour voir s'il va guérir le jour du sabbat afin de l'accuser.
Selon la Torah, un médecin ne pouvait assister un malade le jour du sabbat que si celui-ci était en danger de mort. Mais il y avait des interprétations encore beaucoup plus étroites, signalons celle des Esséniens.
Le jour du sabbat, personne ne doit aider au vêlage d'un animal. Si celui-ci tombe dans un puits ou dans un fossé, on ne doit pas aller le chercher.
Autrement dit, si Dieu veut que l'animal survive, il survivra, mais on ne peut pas s'en occuper seulement après le sabbat. les Esséniens appliquaient cette même règle aux êtres humains.
Le jour du sabbat, personne ne doit utiliser d'échelle, de bâton, pour retirer un homme vivant tombé dans un trou d'eau.
Certains pharisiens défendaient pourtant une vision plus nuancée, une vision qui était proche de celle qui est prêtée à Jésus dans ce texte de Matthieu au chapitre 12.
Qui d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le sabbat, n'ira la prendre et l'en retirer? Or, combien l'homme l'emporte sur la brebis? Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat.
Et on trouve dans un texte juif cette phrase qui correspond aussi à la même idée.
Le jour du sabbat, si un homme, un animal domestique, est tombé dans un fossé plein d'eau, qu'on lui amène une couverture et un rembourrage à glisser sous lui. S'il s'en sort, il s'en sort.
Et pour David Flusser, qui est un juif, eh bien, guérir par la seule parole était permis le jour du sabbat. Donc, pour lui, Jésus n'a pas enfreint véritablement la Torah, même s'il va à l'encontre des conceptions étroites de certains hommes pieux. L'intention de Jésus n'était pas d'abolir cette loi de Moïse, qui est le sabbat, mais de donner des exemples pour rendre manifeste l'étroitesse d'esprit des bigots. Ce que Jésus a voulu mettre en relief, c'est donc le côté moral de la vie en réaction contre une pratique purement formelle de la Torah. Fondamentalement, Jésus ne veut-il pas donner priorité absolue au bien qui est à faire, et ici c'est de guérir, car le précepte du repos du sabbat veut d'abord prescrire de faire le bien. Faire le bien pour soi-même, en se libérant de la servitude du travail par le repos, et faire le bien pour le prochain, et notamment en lui apportant la guérison. Le geste de guérir accomplit donc parfaitement le sens véritable du sabbat. Eh bien, concluons cette réflexion par un petit texte du père Marie-Émile Boismard.
Pour Jésus, la loi est au service de l'homme, ce qui veut dire que, en certains cas, il est licite de la transgresser, lorsque son observation rigide peut entraîner un mal. C'est ce que Jésus veut dire dans cette parole rapportée en Matthieu. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau de la loi et des observances pharisaïques, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. » Promenant un regard de colère à la ronde, affligés de l'endurcissement de leur cœur.
Eh bien, voilà peut-être ce qui motive les gestes provocateurs de Jésus. Il veut briser l'endurcissement du cœur. Le cœur endurci n'est-il pas celui qui se ferme à la miséricorde, à l'amour gratuit du prochain, à la compassion envers celui qui souffre? Et cela parce qu'il fait de l'observance parfaite au précepte un absolu. La soumission aveugle au règlement empêche de voir l'appel à l'aide qui est lancé par le prochain. On est pris dans une sorte de carcan de perfectionnisme et l'on n'est plus du tout mu par l'amour. La morale a pris le pas sur la relation d'amour, aussi bien sur la relation d'amour envers Dieu qu'envers le prochain. Et une telle attitude, en fait, ne peut que rendre malheureux celui qui pense et agit ainsi. Elle le rend incapable de laisser son cœur s'émouvoir de la souffrance de l'autre. Elle le rend impuissant à prendre en lui cette souffrance pour la vivre avec l'autre et pouvoir ainsi lui partager la force spirituelle qui naît de l'amour. Celui qui se pense parfait, qui se veut invulnérable, non seulement ne peut venir au secours de son prochain, mais il va s'isoler dans une solitude qui sera un jour sa souffrance.
Comment vivons-nous aujourd'hui cette liberté du sabbat?
Eh bien, il y aura toujours une tension entre la miséricorde et l'observance aveugle de la règle. Donnons un petit exemple. Pour beaucoup de chrétiens, la manière actuelle de célébrer l'Eucharistie est une souffrance. Comme le disent grand nombre des réponses au questionnaire du synode de Montréal, la messe est plate. Et dans cette paroisse jeunesse, la paroisse pour les 18-35 ans, qui est le relais Mont-Royal, j'étais personnellement profondément peiné de voir les meilleurs des jeunes me répéter, tu sais, on se ressource davantage dans la prière de Thésée que dans l'Eucharistie. Comment se faisait-il que ce trésor qu'est l'Eucharistie rebute tant ceux qu'il doit nourrir? Ces jeunes me disaient, bon, la liturgie de la parole, qui est faite de silence et de partage, nous nourrit bien, mais la prière eucharistique nous semble incompréhensible et ennuyeuse. Or, ce n'est-ce pas cette prière qui devrait être au contraire le point d'orgue de ce repas sacré qu'est l'Eucharistie, un moment de mystère qui rend signifiant que le pain de la parole, c'est le pain de la vie, le corps et le sang de Jésus. Alors, grâce à Dieu, cet ennui s'est un jour changé en moment de communion dans la prière lorsque nous avons mis en chant les grandes paroles de la prière eucharistique. Oh, certes, cela a conduit à prendre une liberté par rapport à la lettre de la prière eucharistique, mais cela nous a aussi conduit à mieux en vivre l'esprit. Eh bien, cette liberté n'est-elle pas une manière de vivre la parole de Jésus sur le sabbat? Que la prière eucharistique fasse vivre et qu'elle ne soit plus mortifère, porteuse de mort, qu'elle soit au service de la communauté qui célèbre et non plus l'inverse, que ce soit la communauté qui soit au service de la prière. Alors concluons par ces lignes d'Antoine Dupré.
Jésus apparaît comme un homme d'une liberté et d'une maîtrise totale. Il est libre devant les poursuites de ses adversaires. Leur surveillance ne le fait pas dévier de sa route. Libre aussi par rapport aux institutions les plus saintes telles que le sabbat. C'est un homme dont la puissance apporte le salut et libère. Il libère de la maladie. À cette époque, le malade était une sorte de mort en sursis. La parole de Dieu recrée l'homme dans toute sa dimension. C'est pour cette œuvre de guérison que Jésus est sorti. Il libère surtout du joug d'une loi qui tue, notamment celle du sabbat. Il remet toute loi à sa vraie place, c'est-à-dire au service de l'homme. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
Vous pouvez aussi vous abonner pour 3 mois, 6 mois ou 1 an. Et c'est toujours le même numéro, 514-254-8750.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.
Thank you.